Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison des Vendredis de Culture Monde. Une émission préparée avec Sacha Mattei, Léa Capuano, Barthélémy Gaillard et Fanny Richer. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Jean-Guy Lamèche. Et comme chaque semaine, le vendredi, c'est une émission en deux parties. Le retour de terrain, aujourd'hui c'est Harold Thibault, correspondant du Monde à Pékin, qui nous emmène dans une petite ville du sud de la Chine, où converge une jeunesse en quête d'alternatives. Et puis, la table ronde, aujourd'hui, les débats en Allemagne autour des questions militaires, alors que le chancelier Merz veut faire de l'armée allemande la plus puissante d'Europe. Et à l'occasion du Conseil de défense franco-allemand qui se tient aujourd'hui à Toulon, Allemagne, un nouvel esprit de défense. Nous en discuterons avec nos invités Marie Krapata, chercheuse à l'IFRI sur les relations franco-allemandes, et Michel Weinheister, maître de conférence en études germaniques contemporaines à l'université de Cergy-Paris. Une émission co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du journal Le Monde. Bonjour Marc.
Bonjour Mélanie.
Fidèle au poste. Et bienvenue pour cette nouvelle saison.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Et on commence donc avec le retour de terrain. Bonjour Harold Thibault.
Bonjour.
Vous êtes correspondant du journal Le Monde à Pékin et nous profitons de votre passage en France pour prendre des nouvelles de la société chinoise, de sa jeunesse en particulier. Alors que certains ne cachent plus leur mal-être face à la pression scolaire, économique et sociale d'une société hyper concurrentielle, le ralentissement économique du pays nourrit les inquiétudes de la classe moyenne à mesure que leurs enfants voient s'éloigner le rêve chinois d'un avenir plus prospère que celui de leurs parents. Et c'est à Dali, une petite ville de la province du Yunnan, dans le sud de la Chine, que viennent s'installer une partie de ces jeunes Chinois épuisés et en quête de sens. La ville est surnommée la Dalifornie, en référence à la Californie. Y a-t-il vraiment un air de San Francisco ou de Los Angeles à Dali ?
Alors c'est une ville qui est très éloignée de Pékin. En fait, on est au Yunnan, proche de la frontière birmane presque, donc à plus de 2000 km de la capitale, au bord d'un lac. Donc c'est une région très jolie, très verte, il fait ni trop chaud ni trop froid. Quand on descend vers le sud, c'est déjà tropical, Asie du Sud-Est. Quand on va vers le nord, c'est le plateau tibétain. Mais les gens trouvent qu'à Dali, il fait bon et il fait aussi bon vivre. Également parce qu'on est loin des autorités politiques. Et donc il y a de plus en plus de jeunes qui décident que la pression de Shanghai, de Pékin, de Shenzhen, c'est trop pour eux. Et qu'il y a moins d'opportunités aussi dans ces grosses villes. Et qui donc décident de se mettre un peu en marge et de s'installer là-bas. Quitte à gagner moins d'argent, à se mettre un petit peu en retrait de la course à la réussite, pour profiter de la vie en fait. Et donc Dali est devenu un nouveau repère de cette jeunesse alternative, on pourrait dire.
Oui, à Dali, on peut d'ailleurs pratiquer du yoga, de la méditation, de la musique. On y trouve des auberges de jeunesse pour cette fameuse jeunesse en quête d'un autre mode de vie. Jusqu'où va toutefois la comparaison justement avec l'esprit californien, si l'on peut dire, puisque vraiment ce terme de Dalifornie, ce n'est pas le vôtre. Hein. On le trouve même sur des pancartes dans la ville.
Il y a un vrai vent de liberté. Après, les gens, ils vont pas forcément pour demander un changement politique ou quoi. Juste, eux, se mettent en marge d'une pression sociale qui leur paraît trop forte. Alors, beaucoup de parents parlent de l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut aller dans la bonne école, ensuite dans le bon lycée, pour aller dans la bonne université. Dans un pays où on est 1,4 milliard, il y a une pression terrible pour réussir. Il y a des parents qui disent, nous, on va à Dali, au moins les années de jeunesse de nos enfants, pour qu'ils puissent plus profiter de la vie. On fait de la randonnée le week-end, on profite, on va faire du camping, on apprend de manière différente. Le vendredi, les enfants peuvent aller faire du vélo avec leur classe. Et donc, il y a ce sentiment de liberté. Alors après, encore une fois, il n'y a pas forcément une demande politique derrière. Il y a juste un choix individuel de ne plus participer à cette course un peu à l'échalote qu'on retrouve dans des villes comme Pékin, comme Shanghai.
Un choix individuel, c'est celui par exemple de Tania Guo. Elle a 26 ans, elle a quitté Pékin il y a un an pour s'installer à Delhi. Et quand elle vous parle de sa vie passée, elle emploie une expression qui est apparemment très courante, qui est celle de la course des rats. Et pour qualifier la vie qu'elle avait à Pékin, de quoi s'agit-il exactement, que signifie cette expression ?
Les gens ont le sentiment que il y a peu de place pour le bonheur personnel, c'est-à-dire que à l'université, il faut se démener pour y arriver, pour ensuite trouver un bon job. Il y a une pression également de la famille pour que vous mariez assez tôt, avec quelqu'un qui vient d'une bonne condition sociale, ensuite acheter un appartement, ensuite avoir une voiture. Tout ça dans une économie qui a pas mal ralenti. Depuis 5 ans, le marché immobilier, dans lequel 60% de l'épargne des Chinois allait, s'est considérablement tassé. Donc en fait, les gens ont moins de pouvoir d'achat. Donc il y a cette compétition. Mais les opportunités de réussite sont plus restreintes. Et donc, elle fait partie de ces gens qui disent finalement, ça vaut plus le coup de s'inscrire dans cette course. C'est assez nouveau, parce qu'il y a 10-15 ans, les gens subissaient également cette pression, mais étaient persuadés que un avenir meilleur était très proche. C'est-à-dire que si ce n'était pas pour vous, ce serait pour vos enfants. Donc c'est aussi ce qui poussait beaucoup de parents à accepter de quitter les campagnes et d'aller vivre à l'usine où vraiment on trime.
Il y avait un horizon, une perspective.
Il y avait un horizon.
Qui tend à s'estomper
Un petit peu, moi c'est le sentiment. J'ai déjà vécu en Chine de 2008 à 2016 et puis là je suis retourné depuis un an et demi. C'est le sentiment qui me marque le plus. C'est que l'idée qu'on a la gagne, qu'on va réussir, c'est un petit peu estompé. Il y a le chômage des jeunes qui a beaucoup monté. On entend parler avec les années Covid, il y a des jobs qui ont été supprimés. Donc j'ai rencontré une personne sur un autre reportage il y a quelques mois qui avait un job de cadre dans un bureau par le passé, qui ensuite est devenu livreur, on appelle ça les Quaidi. C'est un peu l'équivalent d'un livreur Deliveroo. On gagne à peu près les mêmes salaires qu'on peut gagner dans un bureau, mais la condition sociale n'est pas la même, donc le respect et puis la difficulté de travailler dans la rue toute la journée. Donc il y a une forme de déclassement. Donc Tania, elle n'est pas déclassée, mais elle dit je pense que ça vaut plus le coup de s'inscrire dans cette course. Et donc on se met en pause. Alors il y en a qui décident de le faire pour la vie, il y en a d'autres qui décident de se prendre une année pour réfléchir, qui peut-être vont retourner dans les grosses villes pour travailler dans la tech ou dans la banque ou dans des secteurs ultra concurrentiels. Mais Dali est devenu le symbole de prendre un petit peu de temps pour soi et se mettre en marge.
Et ce qui réjouit Tania Guo à Dali, c'est notamment la taille de son nouveau logement. Avec son petit ami, il loue l'étage entier d'une maison partagée, un salon, une chambre, une terrasse pour 3000 yuan, c'est l'équivalent de 360 euros. Qu'est-ce que ça représente par rapport à un appartement à Pékin ?
Vous pouvez payer 5 fois plus cher pour un appartement à Pékin ou à Shanghai ou à Hangzhou, les grosses villes dynamiques. Les gens passent une bonne partie de leur salaire là-dedans, tout en ayant des difficultés à acheter ensuite. Donc eux, ils ont décidé qu'en fait, avec 2-3 000 yuan par mois par personne, parce que donc elle est en couple, finalement, on peut vivre à Dali correctement, tout en acceptant d'avoir des revenus beaucoup plus faibles, pour avoir une meilleure qualité de vie en fait.
Et vous le disiez, à Dali, on peut inscrire ses enfants dans des écoles privées qui mettent moins la pression sur les enfants pour la réussite scolaire, qui réfléchissent aussi à d'autres modes d'apprentissage. Il faut redire à quel point cette question de la pression scolaire est extrêmement préoccupante pour les familles, pour les jeunes parents en particulier.
Donc c'est un sujet qu'on retrouve dans beaucoup de sociétés d'Asie du Nord-Est. Il y a la même question en Corée du Sud, où ils sont obligés de faire des descentes de police pour fermer les cours du soir. Parce que les parents mettent une pression dingue sur leurs enfants. Et en Chine, on a un peu le même problème, c'est qu'il faut non seulement réussir à l'école, très bien, être fort dans les sujets comme les maths, etc., mais en plus, il faut faire des cours du soir dans d'autres choses, du piano, du violon, être bon en sport, pour avoir des points supplémentaires pour le Gaokao, qui est l'équivalent du bac, pour accéder à une bonne université. Il y a des parents, alors je pense que c'est pas la majorité de la Chine encore, mais qui se disent, tout ça, en fait, pourquoi ? Est-ce que ça va rendre mon enfant heureux ? Et qui du coup s'installe à Dali, où on a des écoles privées alors qui sont payantes, donc c'est pas accessible pour tout le monde, où on a un enseignement un peu plus alternatif. Donc j'ai rencontré un type qui était prof de philo à Pékin, qui est devenu prof de philo pour des enfants de 3 à 5 ans. Donc on n'apprend pas l'histoire des idées, on n'apprend pas les noms des philosophes, mais on apprend à réfléchir de manière plus indépendante. Et donc ça amène toute une réflexion sur en fait ce qu'on veut pour nos enfants.
Et est-ce qu'on peut dire que cette vision alternative qui se développe ici et là dans ces écoles à Dali, est assez clairement en contradiction totale avec celle qui est promue par le PCC, en particulier par le président Xi Jinping, qui n'hésite pas à rappeler sa propre jeunesse sacrifiée à travailler dans les champs lors de la révolution culturelle, mais qui l'érige comme un modèle.
Donc lui, Xi Jinping, pendant la révolution culturelle, a passé 7 ans à la campagne, comme une partie de la jeunesse et notamment de l'élite chinoise qui est envoyée dans les campagnes par Mao. Et il répète souvent que ça l'a beaucoup formé. Et il a dit à la jeunesse chinoise, il y a 2 ans, qu'il faut savoir choku, c'est-à-dire ravaler son aigreur, manger aigre. C'est-à-dire que pour réussir, il faut accepter qu'il y a des combats qui sont difficiles. Donc ça vaut pour la politique, mais ça vaut aussi pour la vie des jeunes. C'est un discours qui est assez mal accepté dans la jeunesse, parce que il trouve que c'est dur, il trouve qu'il y a moins de jobs, et donc il voudrait plus d'accompagnement, et pas un discours de dureté comme ça. On est encore dans une société, ce qui se passe à Dali reste assez marginal. Il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de se permettre de se mettre en marge et d'arrêter la course. Et qui bossent très dur, qui mettent énormément de pression sur leurs enfants. Il y a une jeune collégienne qui s'est suicidée il y a quelques mois et qui se plaignait de sa peur des concours et des examens de sciences, notamment à l'école. Et ses parents, après, ont expliqué à quel point ils regrettaient qu'elle ait subi une telle pression. En fait, la plupart des familles chinoises ne peuvent pas se permettre de faire un pas de côté. Il faut être quand même dans la course à la réussite pour beaucoup de gens.
Et il faut préciser que les personnes que vous rencontrez à Dali, si elles rejettent assez explicitement les injonctions au productivisme, ils ne sont pas non plus dans une perspective d'une vie d'oisiveté. Alors, quelle alternative économique, quel travail, quel type de vie peuvent-ils espérer construire sur quelle base économique ?
C'est ça qui va les ramener à un moment quand même vers les grosses villes, c'est que les opportunités économiques sont assez limitées. Il y a du tourisme, c'est une ville qui est connue des backpackers et des touristes depuis longtemps. Ce qui a changé, c'est qu'avec le Covid, elle a vraiment attiré beaucoup de gens qui ont été un peu comme ce qu'on a connu en Europe, mais il y a des villes en Chine qui l'ont connue de manière très très dure. Des gens qui ont été confinés à Wuhan pendant 3 mois, ceux qui ont subi le confinement de Shanghai qui était vraiment brutal, avec des barricades à l'entrée des immeubles, qui habitent dans des appartements assez petits, se sont dit stop et donc sont partis s'installer à Dali comme ça. Mais les jobs qui payent bien, ça se passe quand même dans les grosses villes de la tech, c'est-à-dire Shenzhen, Pékin, Hangzhou, à 1 heure de train de Shanghai. Donc les gens sont ensuite attirés. Soit vous avez des économies, donc vous pouvez vous le permettre, soit il y a quand même des gens qui sont forcés de rentrer ensuite vers les grosses villes parce que il faut gagner sa vie.
La société voit ceux qui ne gagnent pas d'argent comme des losers. On est en quête permanente d'une reconnaissance des autres par cette seule voie. C'est une erreur. C'est Christine Chen, 30 ans, qui a quitté un fonds d'investissement dans le quartier d'affaires de Pékin pour s'installer quelques mois à Dali, qui vous parle à ce moment-là. Vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas forcément une dimension politique à ce mouvement de population. Quand on entend toutefois ce témoignage-là, on a envie de se dire que c'est peut-être le prémisse derrière d'une réflexion, après la réflexion individuelle, d'une réflexion politique.
Alors, de toute façon, en Chine, les gens sont habitués à ne pas mettre un message directement politique dans leurs discussions. Tandis que dans nos discussions en Europe, on va facilement parler de nos dirigeants, de ce qu'on en pense, etc. En Chine, c'est totalement... c'est pas juste interdit par la police, les gens le font également par autocensure. Donc, ça les amène plus vers une réflexion individuelle. Donc, cette Christine Chen, par exemple, elle travaille dans un fonds à Pékin. Donc, Guomao, c'est le quartier des affaires à Pékin. C'est assez gris, c'est des tours immenses le long du 3e périphérique. Donc, c'est une ville où il y a 5 périphériques. Donc, vous êtes dans une densité de capital qui est vraiment forte, 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 avec une pression qui est forte. Les logements sont hors de prix aussi. Xi Jinping a mené ces dernières années une campagne de remise dans le droit chemin de la finance, parce qu'ils sont un peu dans une dénonciation des abus de Wall Street, où il y a trop d'argent et c'est pas sous le contrôle du pouvoir politique. Et donc le PCC veut remettre la finance dans le droit chemin. Donc ils ont cassé les salaires dans la finance, ils ont imposé des baisses de salaires dans les banques. Il y a moins de jobs également. Et donc elle fait partie de ces gens qui ont dit... En fait, là, ça vaut pas le coup de rester à Pékin pendant les années qui viennent. Et qui est parti à Dali, qui s'est pris une chambre dans une auberge de jeunesse. Et là, pour quelques dizaines d'euros par jour, quelques centaines d'euros par mois, vous pouvez vivre tout à fait confortablement.
Mais le discours qu'elle peut porter comme ça, est-ce que c'est de nature à inquiéter les autorités? Est-ce que vous avez noté un contrôle ou une surveillance qui existe sur ces milieux alternatifs qui commencent à émerger?
Alors les gens, il y a des conférences à Dalí, parce que souvent c'est des gens qui ont quand même un fort niveau d'éducation, qui partent à Dalí parce qu'ils savent qu'ils y retrouvent aussi des gens qui ont un fort niveau d'éducation. Donc certains sont mis à organiser des débats. Donc si c'est des débats sur le bien-être et la vie, ça va. Si c'est des débats sur la philosophie et la politique, ça va pas. Donc les autorités locales regardent ça de très près. Je suis rentré dans une auberge de jeunesse, il y avait tout un mur de livres, une bibliothèque, et ils avaient mis, comme dans toutes les librairies que vous voyez en Chine, les bouquins de Xi Jinping au premier plan. Histoire de, lorsque vous avez une visite de la police locale, de montrer, non mais on étudie bien ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Donc on n'est pas dans une dissidence politique.
Ce qui ne trompe peut-être pas grand monde. Harold Thibault, des habitants qui décrochent ou qui ne veulent plus soutenir à la course, à la croissance et à la modernisation, c'est aussi ce que vous avez constaté dans la région des gorges du Sceau du Tigre. On est toujours dans le Yunnan, un petit peu plus au nord de Dalí. Et ici, on redoute la construction d'un nouveau barrage sur le fleuve Yangtze. C'est un projet pharaonique qui pourrait redessiner totalement le paysage de toute la vallée. Vous pouvez nous en dire un mot, ne serait-ce déjà que de la grandeur et de l'ampleur de ce projet?
Donc, puisque j'étais à Dalí, la même semaine, j'ai décidé d'aller à 2 heures de route au nord, sur un lieu qui est connu des randonneurs, qui s'appelle les Gorges du Sceau du Tigre. C'est sur le Haut Yangtze. Le fleuve, à ce niveau-là, s'appelle Jinsha, ça veut dire les sables d'or. Donc, c'est des gorges très profondes, et donc il y a un débit très fort. Donc, c'est une région magnifique, déjà. On est sur le début du plateau tibétain, en fait. Et il y a un rêve des ingénieurs chinois qui travaillent sur les barrages, de construire un barrage là-bas, depuis plusieurs décennies. Donc au début des années 2000, il y avait déjà un premier projet de barrage des gorges du Sceau du Tigre. Mais il y avait eu des manifestations dans tous les villages qui devaient être inondés. Il y a un village où il y avait 10 000 personnes qui s'étaient rassemblées, où ils avaient même séquestré des ingénieurs de la compagnie hydroélectrique qui voulaient rentrer dans le village. Et donc, ça a inquiété Pékin. Il y avait également des ONG, des militants des droits de l'environnement qui étaient venus là-bas. Et donc, Pékin avait décidé de suspendre le projet. Beaucoup de temps a passé. Depuis, il y a moins de sociétés civiles en Chine. C'est l'effet de 13 années de Xi Jinping. Donc, il y a une reprise en main permanente. Donc, il n'y a plus trop de militants des droits qui peuvent dire ce qu'ils pensent. Les journalistes chinois eux-mêmes ont moins de marge pour aller faire des enquêtes de terrain et raconter ce genre de choses. Et donc, le projet en fait, a été relancé assez discrètement, avec un autre nom. C'est plus le barrage des Gorges du Sceau du Tigre, c'est le barrage de Longpan, qui est le nom d'un village qui va être inondé. Mais le projet est le même.
Et donc avec les mêmes conséquences.
Avec les mêmes conséquences.
Environ 100 000 personnes qui
devraient... Environ 100 000 personnes qui vont être expropriées et expulsées vers des villes nouvelles qui vont être construites le long du Yangtze. C'est aussi parce que la Chine est lancée dans une course aux énergies renouvelables qui, dans l'ensemble, est très positive puisqu'elle essaye de se sortir de sa dépendance massive au charbon. Elle est responsable de 31% des émissions de CO2. Donc elle a pris le lead dans l'installation d'éoliennes, dans l'installation de panneaux solaires. Elle va beaucoup plus vite que l'Union européenne, et je ne vous parle même pas des États-Unis qui sont un peu arrêtés, qui sont ralentis dans ce secteur en ce moment. Mais ça veut dire aussi avancer dans le renouvelable, de leur point de vue, construire de nouveaux barrages. En plus, c'est quelque chose que le parti apprécie, puisqu'on fait de la planification, on fait des grands travaux, on montre des réalisations. Pendant longtemps, le PCC a été dirigé par des ingénieurs. Donc, c'est des projets qui,
de même
que la construction des villes, la construction des chemins de fer, c'est dans l'ADN du parti. Ça correspond à ce qu'ils savent faire.
Néanmoins, si la mobilisation est beaucoup moins forte qu'en 2004, l'inquiétude, elle est toujours là. Elle est donc dans ce petit village de Longpan, justement, vous rencontrez Madame Wang, qui est une femme d'un certain âge, qui est en train de jouer aux cartes avec ses amis et qui vous dit, ici la montagne est belle, l'eau est pure, comment quitter un tel endroit? Donc, si la contestation affaiblit, l'inquiétude, elle, n'a pas disparu.
Dans tous les villages, en fait, de la région, on a commencé à voir apparaître depuis l'automne dernier des affiches expliquant que on ne peut plus construire de nouveaux bâtiments, on ne peut plus venir s'installer, sauf si on revient de l'université, ou s'il y a un nouveau mariage, ou si on est libéré de prison, par exemple, et que sinon, à terme, tout va disparaître. Et donc les gens savent qu'ils auront peu de prise sur ce qui va se passer, mais regrettent fortement de devoir partir.
Merci beaucoup, Harold de Thibault. On n'a pas eu le temps d'évoquer un autre de vos reportages que je conseille aux auditeurs et dont on mettra le lien sur le site, sur les micro-séries, ces séries en 3 minutes qui proposent un échappatoire à ceux qui ne peuvent pas partir à Dali. Merci beaucoup, vos reportages à retrouver donc sur le site du journal Le Monde.
Merci.
夜空中最亮的星，能否听清那仰望的人心底的孤独和叹息？哦，夜空中最亮的星，能否记起曾与我同行？ 消失在风里的身影，我祈祷拥有一颗透明的心灵和会流泪的眼睛，给我再去相信的勇气。哦，越过谎言去拥抱你，每当我找不到存在的。
Chaque fois que je ne trouve pas le sens de l'existence, chaque fois que je suis perdue dans l'obscurité, ô étoile la plus brillante du ciel nocturne, guide-moi vers toi. Extrait d'une chanson du groupe chinois créé en 2004 à Pékin au nom évocateur, Escape Plan. Et c'est sur ces notes qu'on quitte la Chine, direction l'Allemagne.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Qui participera aux garanties de sécurité et dans quelle mesure? Cela doit bien sûr être discuté entre les partenaires européens et avec le gouvernement américain. Ce qui est tout à fait clair, c'est que toute l'Europe doit y participer. Il ne s'agit ici pas seulement du territoire ukrainien, mais de l'ordre politique européen. Et nous, en tant que République fédérale d'Allemagne, avons un grand intérêt et une grande responsabilité à y prendre part. Que nous participions est pour moi une évidence, mais la forme exacte devra être déterminée. Cela doit être débattu en Europe et bien sûr aussi avec la coalition à Berlin, y compris pour débattre de la possibilité de prendre des décisions nécessitant un mandat, c'est-à-dire des décisions que le Bundestag devrait prendre. Mais il est aujourd'hui trop tôt pour donner une réponse définitive.
Le chancelier allemand Friedrich Merz, qui était interrogé le 19 août à Washington sur la participation de son pays aux garanties de sécurité que les Européens pourraient apporter à l'Ukraine en cas de cessez-le-feu. Si l'envoi de soldats de la Bundeswehr sur le terrain est encore très hypothétique et relève d'une décision du Parlement, les propos du chef de la coalition ont ravivé le débat en Allemagne où l'envoi de troupes à l'extérieur est strictement encadré. Arrivé au pouvoir depuis à peine quelques mois, le conservateur Friedrich Merz entend faire bouger les lignes sur les questions de défense. En mai, il annonçait vouloir faire de l'armée allemande la plus puissante d'Europe. Un projet de loi est en discussion pour le retour du service militaire. Et le chancelier participe aujourd'hui à un conseil de défense franco-allemand à Toulon. Alors Allemagne, un nouvel esprit de défense pour l'interrogation. On en discute avec nos invités. Marie Krapata, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes chercheuse au comité d'études des relations franco-allemandes, le CERFA, à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et à vos côtés, Michel Venachter, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes maîtresse de conférence en études germaniques contemporaines à l'Université de Cergy-Paris. Et l'émission est toujours co-animée avec Marc Seymour. On commence par votre édito, Marc.
Oui, Mélanie. Alors, créer la première armée d'Europe, c'est l'objectif revendiqué, comme tu le disais, du chancelier chrétien-démocrate Friedrich Merz, comme de son ministre de la Défense, le social-démocrate Boris Pistorius. Et les deux n'exclut pas l'envoi de troupes en Ukraine dans le cadre d'une force de réassurance déployée après un cessez-le-feu. Le Zeitenwende, le changement d'air qui avait été annoncé par l'ex-chancelier Scholz après l'agression russe, devient peu à peu réalité. La Bundeswehr compte 180 000 hommes, il en faudrait plus du double si les menaces russes, par exemple contre les pays baltes, se concrétisaient. Les autorités allemandes vont donc rétablir progressivement un service militaire sur la base du volontariat, selon le modèle suédois, avec quelque 40 000 jeunes par an. Les 100 milliards d'euros mis sur la table par la précédente coalition vont relancer l'industrie de défense et les achats d'armes. Donc l'Allemagne assume enfin, en matière de défense, des responsabilités au diapason de son poids économique et démographique. Mais ce n'est pas simple que de réacquérir une culture du combat, voire de la guerre, après 3 décennies d'illusions post-guerre froide sur les dividendes de la paix sous parapluie américain. Une grande partie de l'opinion, en outre, y reste opposée, à l'extrême-gauche, comme à l'extrême-droite, mais aussi au sein même des deux grands partis de la coalition rouge-noir au pouvoir. Un conseil de défense commun se tient aujourd'hui à Toulon, mais sur ce point, le moteur franco-allemand est à la peine, d'une certaine façon, tant les cultures de défense entre Paris et Berlin restent divergentes. Quoi de commun, en effet, entre d'un côté la Bundeswehr, qui est une armée parlementaire, étroitement contrôlée par le Bundestag, et les forces françaises, qui ont multiplié les opérations extérieures sur simple décision du chef de l'État, comme le permet la constitution de la Ve République. Si la menace russe a créé un sursaut parmi les Européens, et notamment en Allemagne et en France, cela ne suffit pas encore à créer un esprit de défense commun.
Merci beaucoup Marc Semo. Et je voudrais qu'on commence avec justement les propos de Friedrich Merz qu'on a entendu sur l'évocation d'une possibilité que la Bundeswehr puisse intervenir aux côtés de ses partenaires en Ukraine dans le cadre d'une forme de réassurance. Michel Venachter, on a vu que l'AFD s'est vivement opposée à cette idée très rapidement. Quelles ont été les réactions dans le reste de la classe politique allemande?
Alors en fait, il faut, j'allais dire, calmer le jeu, parce que de toute façon, c'est pas du tout une perspective pour demain matin.
C'est hypothétique, oui.
C'est vraiment hypothétique. C'est déjà, il faudrait la paix. Et c'est dans le cadre des garanties de sécurité. Donc les Européens et les Américains, s'ils veulent bien le confirmer, offriront à l'Ukraine. Alors effectivement, il y a eu des divisions dans la classe politique, mais déjà j'allais dire, il faut revenir au réel, c'est-à-dire que si des troupes allemandes étaient envoyées en Ukraine, ça ne pourrait être qu'avec l'appui de troupes américaines, et ça, on voit pas du tout Trump envoyer des Américains au sol, hein, parce que les Allemands, ils ont beaucoup de difficultés déjà à armer correctement leurs soldats, on va le dire gentiment comme ça. Donc ce n'est pas actuel, mais ils ont tous réagi assez rapidement. Et donc en fait, il y a des divergences, comme cela vient d'être évoqué. L'AFD est assez pro-russe, hein, même s'ils se sont prononcés avant-hier en faveur du service militaire obligatoire. Mais eux, ils pensaient peut-être plutôt à des difficultés à l'intérieur, hein, vous voyez, un peu genre, mais là j'extrapole peut-être un peu, garde nationale à Washington ou ce genre de choses, voilà, contre de la criminalité intérieure, etc. Parce que l'Allemagne, l'armée de l'Allemagne est censée défendre avant tout l'Allemagne, et ensuite l'extérieur, c'est un autre sujet, évidemment. Alors les Allemands néanmoins sont sur le point, et ça a déjà commencé, d'installer une brigade en Lituanie, hein, puisque c'est l'un des autres pays qui est visé, évidemment, hypothétiquement, mais bon, la peur est grande quand même, l'inquiétude est grande, c'est 35 000 hommes sur place. Voilà, maintenant il va falloir les armer mieux que ça, donc il faut une montée en capacité militaire aussi, ça c'est l'un des sujets.
C'est intéressant ce que vous notez, justement, cette différence entre une réalité qui est encore très hypothétique, puisque l'envoi de soldats en Ukraine ne se ferait que s'il y avait cessez-le-feu, que s'il y avait concrétisation de cette armée de réassurance. Et la rapidité et l'ampleur toutefois des réactions qu'il y a eu en Allemagne, soit pour s'y opposer, soit pour dire qu'éventuellement on pouvait en discuter, etc. Mais ça a pris tout de suite. Et qu'est-ce que ça dit de la sensibilité de ce sujet en Allemagne, Marie Krapata?
Je pense que l'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, s'est construite surtout à travers son rayonnement économique. Donc, il n'était pas du tout question qu'elle s'affirme sur le plan de la défense. Donc, vraiment, ce rayonnement économique était très important pour le soft power allemand. On parle d'un hégémon réticent aussi quand on parle de l'Allemagne. Et donc, effectivement, la guerre en Ukraine, ça a déclenché la Zeitenwende, ce changement d'époque, la nécessité de devoir reprendre des responsabilités sur le plan militaire. On s'est rendu compte que l'armée allemande était à sec. Et le deuxième moment, je pense, important, c'était le retour de Donald Trump à la tête de la Maison-Blanche, puisque ça a été une prise de conscience qu'éventuellement, les États-Unis ne seront pas là éternellement pour garantir la sécurité de l'Allemagne et la dissuasion nucléaire de l'Allemagne. Donc l'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, s'est construite sur un ancrage dans les relations transatlantiques, dans les institutions transatlantiques, au premier rang des l'OTAN. Et aujourd'hui, eh bien, ces liens très étroits avec les États-Unis risquent de se distendre. Et Friedrich Merz, le soir même des élections en février 2025, a dit que l'Europe allait devoir prendre ses responsabilités, que les États-Unis n'étaient plus intéressés par le sort de l'Europe. Et d'ailleurs, il a fait un appel du pied à Emmanuel Macron sur la question de la dissuasion nucléaire pour voir si les intérêts vitaux de la France pouvaient être étendus à l'Allemagne. Donc il y a beaucoup de questions autour de ce sujet-là. Il y a la question aussi du retrait potentiel des soldats américains basés en Allemagne. Donc il y a 100 000 soldats en Europe, de soldats américains. Et Elbridge Colby, qui est responsable de la défense aux États-Unis, pourrait présenter un plan en septembre pour annoncer un potentiel retrait, donc un redéploiement de ces soldats plutôt dans l'Indo-Pacifique ou pour sécuriser les frontières américaines. Donc ça aussi, c'est une grande crainte côté allemand.
Marc Semo.
Oui, Merz change totalement de ton dans cette thématique, que ce soit justement par rapport à la mobilisation, par rapport, on n'exclut pas l'envoi de soldats en Ukraine, par rapport au nucléaire. Mais en même temps, il est très en décalage. Au-delà même des extrémistes des deux côtés, dans son opinion publique, il s'est gagné le surnom de chancelier de l'étranger. C'est-à-dire à la fois, il a cette hyperactivité, comme pour d'autres raisons, Emmanuel Macron à l'international, et en même temps, il est quand même en difficulté en termes de popularité en interne.
Michel Weinachter.
Oui, effectivement, il est en difficulté en interne sur bien des sujets, mais c'est pas le sujet de notre émission. Et il paraît quand même un petit peu isolé, puisqu'il n'a pas, notamment parce qu'il n'a pas tenu ses promesses de campagne sur un certain nombre de sujets. Cela étant, il faut arriver à distinguer, puisqu'effectivement l'Allemagne a un fonctionnement bien différent entre Merz, sa coalition. Ensuite, il faut voir l'ensemble de la classe politique. Ensuite, il faut voir comment réagit la société civile. Et enfin aussi, comment se positionne la Bundeswehr elle-même. Et là, il y a effectivement un certain nombre de nuances sur lesquelles on va peut-être pouvoir revenir. Je voudrais juste, au niveau du séquençage historique, revenir peut-être aussi sur le fait que dès les années 50, eh bien, je le dis personnellement avec un certain regret, mais on peut comprendre effectivement, vu l'époque, le crime d'août 54, hein, où c'est la France qui a torpillé le projet de communauté européenne de défense qui avait été signé par tous les autres et notamment par les Allemands. Et après cet échec de la communauté européenne de défense, où en serions-nous aujourd'hui si elle avait été votée? Voilà, c'est la question qui est derrière. Mais en tout cas, ensuite, la décision a été prise parce qu'on ne voulait pas laisser les Allemands seuls de les intégrer dans l'OTAN. Et c'est donc depuis ce moment que les Allemands comptent vraiment sur les Américains, hein, pendant toute la guerre froide, puisque la France n'a jamais dit clairement, hein, autonomie et souveraineté oblige, un certain nombre de choses que les Américains assuraient à l'Allemagne. Mais au niveau de la prise de conscience, la première prise de conscience, je la daterais vraiment du premier mandat de Trump, déjà où Merkel était vraiment extrêmement réticente et où les Allemands ont pris conscience du fait que les Américains ne seraient pas toujours là. Ensuite, il y a eu la Zeitenwende, la fameuse le changement d'époque annoncé par donc Olaf Scholz en février 2022. Ensuite, il y a eu quand même un discours très important. C'était dans une émission de télévision sur la deuxième chaîne allemande, la ZDF, où Boris Pistorius, qui était déjà ministre de la Défense, a prononcé une phrase qui a fait énormément de vagues. Deutschland muss kriegstüchtig werden. Et je le dis exprès en allemand parce que le concept de kriegstüchtig, qui est un petit peu difficile à traduire, mais on va dire, c'est la nécessité pour l'Allemagne de se mettre en capacité de se défendre en cas de guerre. Évidemment, en creux, ça signifie qu'elle ne l'est pas. Hein, et donc, effectivement, il faut absolument que les choses bougent. Et puis là, maintenant, depuis ces derniers mois, l'arrivée de Merz et puis l'échec, finalement, de l'Alaska, etc., du sommet d'Anchorage, etc., là, maintenant... Et puis, donc, il y a eu cette loi qui était déjà prête sous Pistorius avant l'arrivée de Merz, mais la précipitation de la chute de la coalition précédente a différé un tout petit peu le projet. Là, maintenant, cette loi a été votée il y a 2 jours, effectivement, avec une mise en place progressive et modérée sur le modèle suédois, mais pas tout aussi complet que le modèle suédois finalement, donc de service militaire, pour l'instant sur la base du volontariat. Ils essaient vraiment de rendre la Bundeswehr plus attractive, c'est-à-dire notamment en formant les jeunes, en leur offrant la possibilité d'un permis de conduire gratuit, en les formant aussi à l'intelligence artificielle, avec des salaires plus décents aussi, etc. Maintenant, est-ce qu'ils vont y arriver, passer de 180 000 à 260 000 ? C'est pas sûr du tout, et il y aura peut-être une prochaine étape où si les dangers deviennent encore plus massifs, eh bien, il y aura peut-être un passage au service militaire obligatoire.
Marc Semo, vous vouliez apporter une précision.
Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment de tournant dans les années 90, à la fin au moment des guerres dans l'ex-Yougoslavie, notamment au Kosovo, où, avec Schröder, et sous la pression notamment de Joschka Fischer, qui était le ministre vert des Affaires étrangères, l'Allemagne dit « c'est justement parce que nous avons le passé que nous avons que nous devons intervenir pour prévenir des massacres, des génocides, des nettoyages ethniques ». Et on a l'impression qu'aujourd'hui, que ça, ce tournant, est oublié dans une grande majorité de l'opinion allemande.
Exactement. En fait, c'est la première fois que Joschka Fischer, très, très européen, très europhile, très francophone, a dit, au moment de la guerre du Kosovo, c'était la première intervention de l'Allemagne hors zone OTAN. Et là, il a dit, ne pas intervenir pour essayer d'éviter ou de limiter ce génocide, c'est pire que de regarder uniquement nos génocides par le passé. Effectivement, les Allemands s'étaient engagés, mais pas par des troupes au sol, uniquement par des moyens aériens, mais c'était déjà effectivement un discours totalement historique et nouveau, et le Parlement avait voté pour. Et comme vous le dites très bien, entre-temps, eh bien, ça a été un peu oublié, parce que on a vécu des décennies où les dangers n'étaient pas là d'une façon aussi pressante.
La modernisation de l'armée allemande, elle passe par la question financière. Il y a des chiffres qui ont été avancés qui sont impressionnants. Un budget des armées qui s'élèvera à 108,2 milliards d'euros pour 2026. Une promesse de consacrer 5% du PIB allemand à la défense. Marie Krapata, est-ce que ce sont des montants inédits dans l'histoire allemande? Et en quoi cette dimension financière, matérielle, équipement va aussi de pair avec une volonté de changer peut-être ce que disait Marc tout à l'heure, la culture du combat et la culture militaire en Allemagne, si tant est de savoir ce qu'est une culture militaire.
Oui, alors effectivement, déjà sous Olaf Scholz, un fonds spécial de 100 milliards d'euros avait été mis en place pour moderniser la Bundeswehr. Maintenant, quelque chose de très intéressant s'est passé après les élections en Allemagne, mais avant que le nouveau gouvernement voie le jour, c'est l'assouplissement du frein à l'endettement. Donc ce frein à l'endettement qui est ancré constitutionnellement et qui prévoit qu'il n'y a pas de déficit structurel de plus de 0,35% du PIB. Or, ce frein à l'endettement a été assoupli, donc il ne s'applique pas aux dépenses militaire qui dépasse 1% du PIB.
C'est donc la dette qui va financer la modernisation de l'armée allemande.
Effectivement, donc on peut engager les moyens dont on a besoin, à la fois pour moderniser la Bundeswehr, mais aussi pour les infrastructures qui vont avec. Donc il ne s'agit pas seulement d'un problème de ressources humaines, c'est aussi un problème de ressources humaines, c'est un problème de trouver des formateurs, mais c'est aussi d'avoir une infrastructure qui permette le déploiement de matériel militaire. Donc en plus de cet assouplissement du frein à l'endettement, il y a aussi eu 500 milliards d'euros sur les 10 années à venir qui seront effectivement déployés dans les projets d'infrastructure en Allemagne. Donc c'est vraiment un bazooka fiscal, on a parlé d'un bazooka fiscal à ce moment-là. Et donc il s'agit effectivement maintenant de mettre l'accent sur la sécurité et la défense. On comprend qu'il y a une distanciation des États-Unis, donc on comprend qu'il faut prendre davantage de responsabilités, y compris en matière de sécurité et défense. Vous avez parlé de la loi, effectivement, qui doit avoir le jour pour rendre la Bundeswehr plus attrayante. Mais maintenant, il y a aussi beaucoup de questions sur en matière de dans la société, en fait, des débats dans la société. Est-ce que la Gen Z est vraiment aussi, est-ce qu'elle a envie de faire la guerre? Donc, il y a eu beaucoup de débats autour d'un livre qui est paru l'an dernier de Olle Nimoyen, qui a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, et qui disait « Je ne veux pas me battre pour mon pays, je préfère vivre dans un pays occupé plutôt que de me battre pour mon pays ». Donc, c'est aussi la valeur, finalement, qu'a la démocratie et la liberté dans nos sociétés d'après-guerre. Effectivement, dans les années 2000, on s'est dit que, finalement, les guerres, les terrains de guerre se déplaçaient vers d'autres régions du monde, et que, finalement, la guerre devenait une guerre hybride, les menaces devenaient autres que des menaces physiques. Et donc, c'est pour ça que la Zeitenwende, je pense que c'était un moment très important. Le retour de la guerre sur le continent européen, c'est une prise de conscience pour l'Allemagne, parce que l'Ukraine est vraiment géographiquement très proche, et beaucoup plus proche qu'elle ne l'est de la France. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très visible en Allemagne, y compris aussi tous les migrants ukrainiens qui se sont retrouvés en Allemagne. Donc, c'est devenu tout de suite quelque chose de très tangible.
Et justement, politiquement, Michel Weinachter, ce choix de consacrer des milliards à la défense, comment est-il perçu? Est-ce qu'on sait aussi au détriment de quel autre choix politique, de quel autre programme politique il se fait, et comment il vient raviver aussi ce que vous évoquez, Marie Krapata, de la culture pacifiste très propre à l'Allemagne, que ce soit dans la nouvelle génération ou dans les générations évidemment précédentes?
Ça ne va pas être au détriment d'autre chose, puisque ce sont des fonds dédiés. Et donc, ça ne se fera pas au détriment d'autre chose. Et si on investit dans les infrastructures, de toute façon, ça bénéficiera à l'ensemble de l'économie aussi. Donc, voilà.
En même temps, quand on fait un choix d'endettement qui est un choix fort, qui engage sur des décennies, ce frein à l'endettement, il aurait pu être levé pour d'autres types de politiques, éventuellement de modernisation, parce que l'Allemagne en a besoin, mais peut-être sociale ou d'investissement dans la transition énergétique. Là, il y a un choix d'endettement qui est fait, qui pourra peut-être pas être fait à la même hauteur pour d'autres politiques.
Alors il y a les arbitrages qui vont se faire dans les années qui viennent, hein, évidemment, mais la réforme de ce fameux frein à l'endettement, elle a été faite avant tout pour moderniser les infrastructures, l'éducation, le système, le numérique allemand. Enfin, je veux dire, les Allemands, c'est assez hallucinant. Ils sont très très en retard sur beaucoup de sujets qui concernent même, enfin, la fibre optique, etc. Enfin, c'est presque risible. Et presque tous les trains allemands arrivent en retard. J'en ai fait les frais moi-même il y a quelques jours. Donc, en fait, c'est ça, hein, les priorités, des milliards d'endettement qui ont été dégagés. Alors maintenant, la défense est un sujet spécial. Les 100 milliards d'euros qui ont été dégagés sont vraiment dédiés à la défense. Et dans le reste de ce qui sera dégagé dans les années qui viennent, il y aura encore effectivement des arbitrages à faire. Quant aux réformes sociales, elles sont encore devant. Il y a des grosses dissensions entre la CDU, le CSU et le SPD. Ils viennent de passer un week-end ensemble pour faire ce qu'ils appellent même du team building, parce qu'ils vont déjà, ils ont eu déjà pas mal de différends depuis le mois de février. Mais en fait, là, il y a des différences aussi qui sont assez importantes sur les arbitrages à faire, à venir sur un sujet de politique intérieure. Mais tout ça, est évidemment, n'arrange pas les décisions non plus militaires, puisque vraiment, contrairement à la France, comme vous le disiez tout à l'heure, Merz n'est pas seul à décider. Hein, il faut que sa coalition entérine chacune des décisions sur ces sujets.
Marc Sémo.
Justement, pour rebondir là-dessus, est-ce que vous pensez que ce phénomène, cette prise de conscience, et le fait d'en tirer toutes les conséquences, est irréversible, ou il y a un risque de retour en arrière? Alors pas formellement, mais de fait que les choses s'enlisent, notamment, par exemple, le SPD, le Parti Social-Démocrate, a toujours cette, alors pas Pistorius, mais beaucoup d'autres, d'être le parti de la paix. Donc est-ce qu'il y a un risque que ce mouvement, finalement, s'en sable?
Je ne pense pas, honnêtement. Là, cette fois-ci, je pense que c'est vraiment irréversible. Alors, reste à savoir dans quelle mesure et jusqu'où ça ira, puisque on ne sait pas dans quelques années comment sera le Parlement en Allemagne. En France, on ne sait pas non plus, d'ailleurs. Donc, en Allemagne, on ne sait pas non plus comment le Parlement sera composé dans quelques années. Ils vont avoir de nouvelles législatives. Actuellement, et pour la première fois, dans l'un des sondages, l'AFD est passée devant la CDU dans l'un des sondages. Enfin, je veux dire, c'est quand même des évolutions pollution massive. Et chez nous, vous savez comment est la situation. Donc, en tout cas, pour revenir à l'Allemagne, je ne pense pas qu'il y aura à nouveau un enlisement. Si on revient un peu plus en détail sur les réactions qu'il a pu y avoir, dans la classe politique, je voudrais juste noter une petite différence aussi entre l'Est et l'Ouest, parce que à l'Est, ils sont beaucoup plus réticents, notamment à l'envoi de troupes. Deux ministres présidents sur les cinq se sont exprimés ces derniers jours pour dire que non, alors non, même CDU, qui sont de CDU, hein, tous les deux, on dit pas question. Il y a aussi des dissensions au sein du SPD lui-même, comme vous le disiez, Pistorius est social-démocrate, c'est lui qui porte cette loi et qui voulait même qu'elle aille plus loin, comme tout, d'ailleurs la CSU, hein, qui est la version bavaroise de la CDU. Die Linke est plutôt contre tout ça, donc effectivement, on a de fortes dissensions au sein de la classe politique, mais quand même une prise de conscience qu'on ne peut pas rester au statu quo ante. Il y a quand même quelque chose qui ne trompe pas non plus, c'est que il y a 10 ans, l'Allemagne était à 1,19, je crois, de son pays, d'investissement dans la défense de son PIB. Et en 2024, donc 10 ans plus tard, ils sont à 2,12. Ils sont même passés devant la France, qui est à 2,06. Donc ça, c'est des choses qui ne trompent pas. Ils ont, lors de la rencontre de l'OTAN avec Trump, ils ont accepté l'objectif des 5%. Maintenant, il ne faut pas rêver. Je ne pense pas que ni la France ni l'Allemagne l'atteindra rapidement. Ensuite, au niveau de la société civile, il y a de fortes divergences aussi entre le livre que Marie évoquait il y a quelques instants et d'autres prises de position. Maintenant, ils sont tout à fait minoritaires à vouloir mourir pour l'Allemagne. Effectivement, ça rappelle un petit peu les années 80, plutôt rouge que mort. Mais en tout cas, dans le langage du gouvernement, les questions de sécurité sont très fortement liées à la liberté, qui est vraiment un concept fondamental. La Bundeswehr, ils sont beaucoup plus loin. Eux, ça fait des années et des années qu'ils réclament des moyens supplémentaires, parce que je veux dire, leurs armes tiraient même pas droit. Donc en fait, je veux dire, c'était vraiment la catastrophe. Donc il faut faire la différenciation entre ces différents niveaux.
C'est vrai que la notion de culture pacifiste allemande est très souvent évoquée pour essayer de comprendre le rapport, vous l'avez dit, à la fois de la société civile, des responsables politiques, de l'armée elle-même, à ce qu'est la guerre, à ce qu'est le rôle de l'Allemagne à l'extérieur. Est-ce que cette culture pacifiste allemande est au fond vraiment quelque chose de compris de la même manière selon que l'on soit vert, CDU, selon que l'on vive dans une grande ville à la campagne, dans l'ancienne Allemagne de l'Est ou à Berlin, ou à l'Ouest. Est-ce qu'il y a vraiment une idée partagée de cette culture pacifiste allemande?
Je pense que ça a déjà été évoqué, c'est très hétérogène, le paysage politique allemand est très hétérogène, c'est la même chose chez les électeurs. On a d'un côté le parti du SPD, donc l'aile de gauche qui a beaucoup été critiquée pour une certaine complaisance avec la Russie, notamment Rolf Mützenich qui était le chef de la fraction du SPD sous le précédent gouvernement, qui avait dit qu'il fallait geler ce conflit, donc il y a eu beaucoup de critiques à son égard. Ralf Stegner, qui est député allemand, s'est rendu en Russie en avril. Il y a eu un coup de fil aussi d'Olaf Scholz avec Vladimir Poutine l'an dernier. La position du SPD est assez compliquée en la matière, et notamment c'est l'héritier. Le SPD, c'est l'héritier aussi de la Ostpolitik de Willy Brandt des années 70, donc du rapprochement avec la Russie et des voisins de l'Est. Mais en même temps, après les élections de février dernier, c'est l'aile pragmatique du SPD qui s'est imposé autour de Lars Klingbeil et, on l'a dit, Boris Pistorius. D'ailleurs, Boris Pistorius qui est l'homme politique le plus populaire en Allemagne, qu'il était sous la dernière coalition et qui a été maintenu à ce poste pour ces raisons-là. Donc, il y a beaucoup d'hétérogénéité. Monsieur Miesch, qui est le président du groupe parlementaire du SPD, a dit qu'il n'y aura pas de troupes au sol allemande en Ukraine s'il n'y a pas de troupes américaines. Donc, il y a vraiment beaucoup de nuances en Allemagne. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le paysage industriel qui peu à peu change. Donc une entreprise comme Rheinmetall, par exemple, devient de plus en plus importante avec le cours de l'action qui a été multiplié par 5. Et donc on voit qu'avec les déboires que connaît l'industrie automobile en Allemagne, il y a eu un rapport de EY qui montrait qu'il y a eu 50 000 postes supprimés chez les sous-traitants automobiles. Eh bien, Rheinmetall va de plus en plus, ou d'autres entreprises qui travaillent dans la défense, s'établir produire dans ces usines et voir si on peut utiliser une main-d'œuvre qualifiée pour fabriquer des munitions, par exemple. Alors, c'est pas possible dans tous les domaines, mais de plus en plus, ce sont des évolutions qui voient le jour en Allemagne.
Vous écoutez Culture Monde, Allemagne, un nouvel esprit de défense. Nous en discutons avec les chercheuses Marie Krapata et Michel Weinachter. Comme chaque vendredi, nous retrouvons notre partenariat avec l'association de dessinateurs de presse Cartooning for Peace. Notre sujet d'actualité vu par les caricaturistes, c'est la bulle cartooning.
Merci. Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon vieux.
Assis.
Et le dessin qui nous est parvenu cette semaine est signé Philippe Baumann, alias De Bume, un dessinateur de presse suisse. On pourrait y voir une sorte de carte postale des plus beaux monuments européens. Quatre images d'Épinal y apparaissent. Un Français en béret devant la Tour Eiffel, un Allemand assis à la terrasse d'une brasserie devant la porte de Brandebourg, un Italien dégustant un plat de pâtes devant le Colisée et un Suisse dans un paysage alpin. Ambiance de guerre en Europe, titre pourtant le dessinateur. Oui, car la guerre s'est immiscée dans la banalité rassurante de ces clichés. Un missile a remplacé la baguette de pain, un casque fait office de chope de bière, les spaghettis de l'Italien sont reliés à un parachute militaire et enfin, le Suisse a vu sa vache remplacée par un avion de combat. Un dessin à découvrir sur le fil du compte Blue Sky de Culture Monde et puis sur la page internet de l'émission Réaction de nos invités à cette caricature, si ça vous évoque quelque chose. Marie Krapata, peut-être
Effectivement, je pense que c'est un sujet qui est omniprésent, la guerre, et pourtant, il y a d'autres sujets, on l'a évoqué, donc où on met le curseur entre les priorités militaires et les priorités sociales. Ce sont des questions qui se posent dans nos sociétés européennes, où on a connu la paix depuis longtemps. Alors, je pense que Friedrich Merz, justement, a essayé de prendre un leadership en Europe, en soutenant Zelensky, notamment au bureau ovale le 18 août dernier, avec d'autres leaders politiques. Donc, il y avait Emmanuel Macron, il y avait aussi le Premier ministre finlandais, Stubb, il y avait Starmer, il y avait Meloni. Donc, effectivement, pour soutenir Zelensky par rapport à Donald Trump et éviter de réitérer l'expérience de Zelensky qui était humiliante en début d'année, où il a été humilié par J.D. Vance et par Donald Trump. Donc, effectivement, je pense que c'est présent dans les mentalités des chefs d'État, y compris donc, et surtout chez les chefs d'État des plus grandes économies européennes. Et il y a beaucoup d'attentes par rapport à la France et à l'Allemagne, d'où l'importance du Conseil des ministres franco-allemands aujourd'hui en la matière.
Et justement, Friedrich Merz qui est reçu aujourd'hui à Toulon par Emmanuel Macron pour un Conseil franco-allemand de défense, entre autres, parce qu'il y a aussi un Conseil des ministres franco-allemands. Michel Weinachter, ce duo, ce couple franco-allemand en matière de défense, comment est-ce que vous le voyez évoluer depuis l'arrivée de Friedrich Merz en mai dernier ?
Alors, pour réagir d'abord au petit cartooning, effectivement, ambiance de guerre en Europe, je voudrais juste dire qu'en France, on en parle parmi d'autres sujets. Et vous savez que les médias sont friands actuellement d'instabilité côté français et de ce qui va se passer dans quelques jours. Et on peut le comprendre parce que c'est quand même quelque chose de très important. En Allemagne, ce qui se passe en Ukraine est encore plus présent dans les médias. Il ne faut pas oublier que l'histoire de l'Allemagne est aussi tournée vers l'Est et que depuis des siècles et des siècles, depuis la Hanse, en fait, depuis la Ligue hanséatique, l'Allemagne commerce et abondamment avec toute cette région jusqu'à Saint-Pétersbourg. Et ensuite, il y a eu beaucoup de conflits aussi avec les pays d'Europe centrale et orientale, mais aussi beaucoup de liens politiques, économiques et culturels. Et donc, eux, ils ont accueilli plus d'un million d'Ukrainiens. Nous, à côté, ça n'est rien. Et effectivement, donc les Ukrainiens sont présents, j'allais dire, dans le quotidien des Allemands aussi. Donc pour nous, ça reste quelque chose d'un petit peu abstrait, même si ça devient de plus en plus concret. Mais effectivement, l'ensemble du dessin reflète bien l'ambiance qu'il peut y avoir actuellement. Donc pour répondre à votre question sur ce qui peut avoir changé depuis l'arrivée de
Merz. Oui,
et
notamment la différence entre l'héritage laissé par Olaf Scholz sur la place de l'Allemagne dans la défense, déjà dans le couple franco-allemand, dans la défense européenne, et puis même vis-à-vis de l'Ukraine, parce que vous vous rappelez cette dimension importante dans la société allemande où le sujet est peut-être pas vécu de la même manière qu'ici. En même temps, l'ancien chancelier a plusieurs fois exprimé des réticences ou des limites dans les livraisons d'armes, limites
que a levé d'ailleurs Friedrich Merz, notamment sur les armes de longue portée. Donc voilà, juste pour mesurer ce virage et ce tournant que représente l'arrivée de Merz.
Alors, Merz a pris des décisions, enfin, à propos de livraison d'armement, il y a quand même une décision qui a été très controversée en Allemagne, c'est la limitation des livraisons d'armement aux Israéliens concernant leur conflit sur Gaza. Mais ça, ce serait un autre sujet, mais c'est pour dire, Merz prend quand même un petit peu des décisions à la française, parce que là, il s'est concerté avec personne, mais ça a été contesté. Mais cette décision a été prise. Ensuite, concernant le couple franco-allemand, bon, puisqu'il nous reste pas beaucoup de temps, c'est sûr que entre le couple franco-allemand sous Scholz, il ne s'est pas passé grand-chose, en fait. Et chacun a plutôt agi un petit peu de son côté, même s'ils ont fait des choses ensemble, je veux dire. Depuis, c'est toujours comme ça, même s'il n'y a pas une entente a priori ou un enthousiasme débordant dès le départ. Très vite, le président en France et le chancelier en Allemagne se rendent compte que vraiment, il faut s'entendre pour avancer. Mais bon, il y a eu quand même pas mal de divergences. Merz, c'est l'héritier rhénan, j'allais dire, des Kohl ou d'autres chanceliers qui sont très francophiles. D'ailleurs, il a été reçu hier soir à Brégançon, ce qui n'était arrivé qu'avec Kohl et Merkel, d'ailleurs, dans toute l'histoire allemande, et qui montre aussi une certaine proximité entre les deux. Et il a parlé en français, il a remercié. Donc, c'est pour montrer à quel point, voilà, c'est un geste, en fait. Hein. De Gaulle avait parlé en allemand aussi lors de son voyage historique au début des années 60, pour dire un certain nombre de choses... montrant son respect vis-à-vis du peuple allemand. Donc Merz est vraiment plus francophile, est vraiment plus européen. Maintenant, sa marge de manœuvre, elle est quand même limitée, mais il semble quand même assez déterminé. Et on va voir si les autres suivent ou pas. Mais étant donné que le ministre de la Défense, Pistorius, est du SPD et qu'ils s'entendent bien, qu'il y a un rapprochement avec Lars Klingbeil aussi, il faut espérer qu'il y ait vraiment des avancées dans les décisions qui sont prises, que les Allemands vont s'entendre entre eux, mais aussi s'entendre avec les Français. Il y a dans ce qui va se dire aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui restent compliqués, notamment sur le futur avion commun et sur le futur char commun. Ça ne va pas être évident.
Dont les discussions ont été d'ores et déjà annoncées qu'elles seraient reportées en octobre, peut-être pour qu'il n'y ait pas trop de sujets qui fâchent lors de la rencontre d'aujourd'hui.
Von hier oben sieht es leicht aus. Die Last fällt von den Schultern und es weht frischer Wind. Ich verstehe, wenn du Zeit brauchst. Ich vielleicht auch. Manchmal braucht es diesen Umweg, um zu verstehen, was gerade wichtiger wäre. Weiterlaufen oder rumstehen oder dumm gehen. Warum werde ich erst wach, sobald es dunkel ist? Warum bin ich am Start bei jeder Fahrt ins Ungewisse? Baby, gib mir ein Ziel. Oder will ich zu viel? Alles bisschen viel, alles bisschen viel, alles bisschen viel zu Zeit. Alles bisschen viel, alles bisschen viel, alles bisschen viel zu Zeit. Alles bisschen viel, alles bisschen viel, alles bisschen viel zu Zeit. Alles bisschen viel, alles bisschen viel, alles bisschen viel. Von hier oben sieht es gleich aus. Man weiß nicht, wo es endet oder wo es beginnt. Vielleicht durchbrechen wir den Kreislauf mit nem Timeout. Und auch wenn es einen Grund gibt, die Dinge hinzunehmen, so wie sie sind, ist am Ende das, was uns fehlt. Nur ein Fluchtweg. Warum werd ich jetzt wach, sobald es dunkel ist? Warum bin ich am Start bei jeder Fahrt ins Ungewisse? Baby, gib mir ein Ziel. Oder will ich zu viel? Alles bisschen viel.
Le chanteur et rappeur allemand Bausa, de son vrai nom, Julian Otto, avec ce titre sorti cette année,
Bisienfil, que je vais mal prononcer, Bisienfil, un peu trop. Merci à toutes les deux, Marie Krapata, je rappelle, chercheuse au comité d'études de relations franco-allemandes, le CERFA, Ali Free, merci beaucoup, Michel Venachter, maîtresse de conférences en études germaniques contemporaines à l'université de Cergy, Paris. Merci beaucoup, Marc Sémon, on se retrouve la semaine prochaine. Et lundi, c'est Julie Gacon que vous retrouvez pour une série consacrée aux déchets après l'échec des négociations sur l'adoption d'un traité mondial pour lutter contre la pollution plastique. Eh bien, nous reviendrons sur les défis posés par la gestion de nos ordures. Il sera question du Sud qui ne veut plus être la poubelle du monde, de la double peine des chiffonniers en Égypte ou en Inde, et enfin du trafic de déchets en Italie. Et dans un instant, eh bien, ce devait être les midis de culture, mais vous retrouverez le programme musical de la grève.